Ben, je suis vraiment honorée d'être devant vous ce matin et de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est toujours un défi de prêcher parce que ben, le Seigneur, il nous parle tout le temps et parfois je suis là, ah, je pourrais parler de ça, puis il faut faire un choix. Mais c'est beau, c'est toujours un chemin aussi très édifiant. Et je vais commencer et je vais d'abord lire la parole de Dieu, puis après je vais prier et vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Donc je vais lire une partie de Jean 15, si ça peut être affiché en même temps. Je lis dans la version Semeur, la vigne et les sarments. Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et ce matin, nous voulons vraiment recevoir ta parole. Nous accueillons ton esprit qui donne vie à la parole que nous avons lue ce matin. Et pour que tu nous enseignes, et nous te donnons l'autorisation de venir en nous, dans les profondeurs de notre être, et pour que ta parole porte du fruit qui demeure. Amen. Alors, je me suis arrêtée un petit peu sur plusieurs versets. C'est assez long, le passage que j'ai lu. Et puis, j'ai laissé un petit peu le Seigneur me travailler et me parler par rapport à tous ces versets. Et puis, voilà, je vais vous embarquer avec moi. On ne va pas étudier chaque verset, mais j'ai quand même pris le temps un petit peu de décortiquer plusieurs choses dans ce passage. Et puis, déjà, il commence... C'est Jésus qui parle, bien sûr, et qui dit « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. » Alors là, il pose le cadre. Ok, Jésus, c'est le cep. Jésus, c'est la vigne. Et puis son Père, Dieu, c'est celui qui prend soin de la vigne. Donc le cadre est posé. Et puis tout de suite, au verset 2, ça parle des sarments qui sont coupés et qui sont taillés. Alors, quelle différence entre être coupé et être taillé? Parce que quand on taille, on coupe. Vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas de grandes notions de jardinage, j'aime bien les plantes, mais quand je taille, je coupe quand même. Mais il y a quand même une différence. Être coupé, on pourrait dire, c'est être séparé de Jésus, ne plus être attaché à lui. C'est un sarment qui est coupé, il n'est plus dépendant. Donc il est dans cette indépendance vis-à-vis du cep. Et une branche qui a été coupée, qui a été retranchée, eh ben, elle meurt. Hein, après, au verset 6, ça dit « Elle dessèche, on les met au feu et elle brûle. » Donc une branche, quand elle est coupée, eh ben, elle ne ressent plus rien. Il n'y a plus la sève, il n'y a plus la vie du cep qui coule. Et c'est un petit peu comme nous, quand on est coupé de l'esprit de vie, eh ben, on ne porte pas de fruits. C'est un peu le calme plat. Il ne se passe rien, il n'y a pas de bourgeons, il n'y a pas de choses qui se passent, il n'y a pas de vie qui naît. Et alors là, Jésus, il a des paroles toujours assez cash. Et puis, c'est sûr qu'on dit, bah, waouh, être coupé, ça veut dire tu renies Dieu, etc. Mais ça peut aussi concerner des domaines de nos vies où comme on ferme les vannes, vous savez, et puis on ne laisse plus l'esprit qui vient couler dans certains domaines de nos vies. Est-ce qu'il y a des domaines de nos vies où on n'entend plus la voix de Dieu ? Parfois, je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur me parle. Et puis, je dis, bon Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, il faut que tu me reparles d'une autre façon, par une autre personne, où je vais lire un verset, ça va me sauter aux yeux, et puis je vais dire, bon, je veux une confirmation. Et puis je vais avoir une confirmation, puis je vais dire, et je veux encore une confirmation, hein, pour être vraiment sûr que c'est toi, que ce n'est pas moi qui me fais mes films, etc. Mais au bout d'un moment, eh ben, ça va être plus silencieux, parce que le Seigneur, il nous parle une fois, deux fois, trois fois, bon, il nous laisse pas, mais c'est comme si après on dit, bah, je ne sais pas, j'entends plus Dieu, pourtant je l'ai prié, et puis le Seigneur a parlé, mais hein, le Seigneur, il y a ce verset qui dit, le Seigneur parle, on n'y prend pas garde, et puis c'est comme si j'entends plus rien. Et du coup, tout est calme en apparence, mais en fait, il n'y a plus la vie de l'esprit qui coule et qui porte du fruit. Et c'est ça, être coupé, en fait. C'est ben, peut-être des on compartimente souvent nos vies et puis il y a des domaines de nos vies où il n'y a plus la vie de l'esprit comme ça qui coule et qui peut porter du fruit. Alors que être taillé, et c'est intéressant, être taillé dans la version que j'ai, il y a une astérix et puis c'est aussi être purifié. Et on peut dire aussi être émondé. Et en fait, quand on taille une plante, c'est pour enlever le superflu, c'est pour enlever ce qui est inutile, et c'est aussi pour enlever ce qui est mort et qui entrave le processus de maturation. Et en fait, les deux, être coupé, être taillé, ben on peut dire que ça fait mal. Mais quand on est coupé souvent, on ne va pas s'en rendre compte tout de suite. On ne va pas s'en rendre compte parce qu'on est focalisé peut-être sur autre chose. Souvent, quand on est dans des choix et qu'il bah, y a l'ennemi qui vient nous proposer la solution de facilité, et ben on va être comme focalisé sur « Ah bah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Et puis, on ne se rend pas compte, mais en fait, dans les choix qu'on fait, ça nous coupe. Et du coup, quelque part, le dommage, et ben, il vient après. On voit que ça amène la mort. Alors que quand on est taillé, et ben, ça fait mal souvent tout de suite. Et c'est douloureux. Un petit peu comme quand le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, ben, si on le laisse nous convaincre de péché aussi, eh ben, on va avoir souvent une grande tristesse dans notre cœur. On va avoir peut-être des remords, des regrets. On va regarder dans le rétroviseur et puis on va avoir cette envie de dire « Ah, mais j'aimerais tellement revenir en arrière et puis faire un choix différent. » Mais ce qui est beau, c'est que quand il y a cette repentance qui vient, il y a aussi le moyen, il y a la miséricorde de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui nous permet de, ben, oui, repartir avec lui. Et en fait, je vais vous donner un petit exemple de ça, pour bien voir la différence. Donc, un exemple personnel d'un moment dans ma vie où j'ai été coupée. Et c'était avant que je donne vraiment ma vie à Dieu. Et j'étais dans une relation amoureuse. J'avais connu, j'avais grandi dans une famille chrétienne, donc je connaissais Dieu, j'avais vécu des choses avec lui. Je lisais ma Bible, j'allais à l'église, et puis pour moi, Dieu, il a toujours existé. Et puis, j'avais rencontré un garçon de qui je suis tombée très amoureuse. Et puis, voilà, vous savez, certainement, vous l'avez vécu. Et puis, d'un coup, je me sentais aimée, c'était concret. Et quelque part, je cherchais mon identité dans cette relation. Mais en même temps, j'aimais Dieu. Et puis, j'ai commencé à négocier avec Dieu, lui dire « Attends, mais je vais lui parler de toi, et puis il va se tourner vers toi. » Mais je faisais des compromis comme ça. « Attends, moi, je m'occupe de lui, et puis d'abord, voilà, je vais sécuriser ma relation avec lui en lui donnant ce qu'il veut, et puis après, je vais lui parler de toi. » Et puis, j'allais à des rencontres de jeunes où vraiment, je vivais des choses fortes avec Dieu. Et puis, je me suis retrouvée dans une de ces rencontres, et là, c'était le combat à l'intérieur de moi. Et je me souviens, j'ai pleuré tout le week-end, j'étais tellement mal parce qu'il y avait ce que je vivais dans ma vie, dans mon quotidien. Et puis je venais là, et puis il y avait la présence de Dieu, et puis le Saint-Esprit qui me parlait. Et moi, je n'avais pas du tout envie qu'il me dise ce qu'il me disait. Et je me souviens être rentrée chez moi, et j'ai dit à ma mère, je crois, « Oh là là, ces chrétiens, ils me jugent tellement, je n'irai plus à ces week-ends. » Et hop, là, j'ai coupé, j'ai fermé la porte. Alors ça, c'était voilà, mon excuse. Il me juge, je me sens jugée. Non, en fait, c'était le Saint-Esprit qui agissait dans mon cœur, mais je ne voulais pas l'entendre et je me suis coupée. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il ne m'a pas laissée. Il est revenu me chercher et puis j'ai craqué. Son amour a été plus fort que mon orgueil. Heureusement, merci Seigneur. Et être taillée et être purifiée, comme je disais, ça peut faire mal aussi. Mais comme je disais aussi, la miséricorde de Dieu, elle vient. Et puis on a toujours la possibilité de changer, de recommencer. Mais pas par nos propres forces, mais en accueillant l'esprit de vie. Être taillé aussi, c'est lâcher prise. C'est abandonner et faire confiance. C'est aussi lâcher nos sécurités, lâcher nos idoles, lâcher tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Et être taillé, c'est comme un... C'est pas une fois et puis ça s'arrête. En fait, c'est un processus continuel de transformation, mais avec une promesse de vie, porter du fruit en abondance. Donc ça, c'est merveilleux. C'est pas juste « Ah, bah ça fait mal et puis, il se passe plus rien ». Non, c'est pour porter du fruit en abondance. Et vous savez, il y a quelques temps, il y a un mois, je crois, au début du mois, on était à une conférence qu'on a fait, Cœur du Père, sur le plateau. Il y en avait plusieurs qui étaient là. Et on a vraiment vécu des très belles choses. C'était merveilleux. C'est toujours merveilleux de voir comment Dieu agit, comment Dieu se révèle dans la vie des personnes. Et puis comment il nous utilise aussi. Et le Seigneur nous utilise aussi. En fait, les victoires qu'on remporte, c'est pour nous. Mais c'est aussi pour qu'on puisse amener ces percées dans la vie des autres. Et encore, on l'a vu pendant ce week-end, en fait, tout ce sur quoi on va avoir des victoires, ça nous donne une autorité pour amener la liberté, pour amener la guérison, pour amener la restauration dans la vie des autres. Parce que le monde spirituel, l'ennemi, il sait en fait que quand tu t'es aligné avec ce que Dieu te dit, quand tu as saisi ce que Jésus a accompli à la croix, que tu l'as vécu dans ta propre vie, tu as l'autorité en fait pour aller l'amener aux autres. Et ça, c'est merveilleux. Mais si on ne le vit pas, on ne va pas avoir l'autorité. Et je vais juste vous raconter un petit exemple d'un processus comme ça où le Seigneur m'a taillé, m'a purifié, m'a émondé. Il y en a plusieurs qui connaissent cette histoire. Mais j'ai grandi avec un surnom. Mon surnom, c'était Maëlou, et j'aimais beaucoup. C'était très affectif pour moi qu'on m'appelle Maëlou. C'était vraiment un surnom qui était attaché à toute la période de mon enfance, qui était une période très heureuse, où j'ai beaucoup reçu. Et puis, quand j'avais 11 ans, on a déménagé dans le sud avec mes parents, et ça a été vraiment un déchirement pour moi. Et le fait de garder ce surnom, Maëlou, c'était un petit peu... garder un petit peu toute cette période-là, tout ce à quoi j'étais attachée, cette partie de mon identité que je ne voulais pas lâcher. Et puis, parce que quand je suis arrivée forcément à Nîmes, les gens ils m'appelaient Emmanuel, ils m'appelaient par mon prénom, c'était écrit sur mes papiers, etc. Et puis, quelque part, c'était un petit peu une preuve pas un privilège, mais une preuve d'affection et puis une marque d'amitié, de dire « non, tu peux m'appeler Maëlou, c'est mon surnom, mes amis ils m'appellent comme ça ». Donc il y avait un petit peu, dans le cadre officiel, on m'appelait Emmanuel et puis tous mes proches, ils m'appelaient Maëlou. Voilà, et puis ça a été comme ça, je me suis construite comme ça. Et puis il y a 8 ans, le Seigneur m'a parlé sur le fait de reprendre mon prénom. Et j'ai mis un an avant de faire la démarche parce que c'était très douloureux. C'était très dur pour moi de lâcher ça. C'était, j'avais l'impression de renoncer à une partie de qui j'étais. Et en fait, je sentais que le Seigneur, il voulait me dire, non, en fait, je suis en train de restaurer une partie de ton identité et c'est hyper important que tu le fasses. Et il a fallu que le Seigneur me parle plusieurs fois, de plusieurs façons différentes, jusqu'à début 2018, en janvier 2018, on était en Suisse avec Mathieu, on faisait une formation sur les pertes de grossesse. Et puis, au moment de partir, je vais aux toilettes. Et pendant les 2 jours, le Seigneur m'avait encore parlé par rapport au fait de reprendre mon prénom. Et je disais, voilà, Seigneur, bah, j'ai vraiment besoin de savoir que c'est toi qui me parles. Donne-moi encore une confirmation, parle-moi encore. Voilà. J'avais reçu un stylo, on m'avait donné un stylo, il y avait écrit Emmanuel dessus. Donc j'étais, ah bon Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles ou est-ce que c'est moi qui vois ça partout? Et puis au moment de partir, on allait vraiment prendre la route. Je vais aux toilettes, je ferme la porte et sur la porte des toilettes, il y avait une affiche, il y avait écrit « Nouvelle année, nouveau nom ». Alors là, je suis sortie des toilettes, j'étais complètement excitée. Matt, il n'a pas compris, il m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais je ne pouvais, j'ai dit « Bon, ok Seigneur, je lâche, ok c'est toi qui parles ». En fait, l'église, je ne savais pas où on était en train de changer de nom. Donc, ils avaient mis certaines de ces affiches, pas dans toutes les toilettes. Hein. Après, j'ai regardé derrière les autres portes, mais c'était dans le toilette où j'avais été. Donc, j'ai cédé, « Ok Seigneur, je le fais par la foi, je t'obéis ». Ça a été difficile pour mon mari aussi, pour tous ceux qui étaient proches de moi, pour ma famille, pour mes parents. Mais en fait, j'ai dit, ok, je t'obéis, je sais que ça fait partie de la restauration de mon identité, donc je l'accepte. Et voilà, maintenant, ça fait 8 ans, donc c'est... Maintenant, quand on m'appelle Maëlou, ça me fait bizarre, je dirais. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps qui m'appellent Maëlou, et je suis là, hein ? Ah oui, non. Donc je leur raconte ça. Et puis, donc, à la conférence, je vais juste raconter ce que j'ai vécu par rapport au fait que on a la victoire, on a les domaines dans lesquels on a la victoire, du coup, on a l'autorité, en fait, pour amener ça aux autres. Et la conférence où on était, le dimanche matin, on a vécu un temps de culte, et puis il y avait des enfants, du coup, alors qu'ils n'étaient pas là pendant la conférence. Il y a un petit garçon à côté de qui j'étais assis, puis je lui dis, bah, comment tu t'appelles? Et il me dit son prénom, un prénom que je n'avais jamais entendu. J'ai cru au début qu'il me faisait une blague. Et je lui dis, ah bah ouais, bah, ça veut dire quoi ton prénom? Il me dit, ça veut rien dire. Et je lui dis, ah bah non, c'est pas vrai, un prénom, ça veut toujours dire quelque chose. Et puis la louange passe, et pendant la louange, et le matin, sur l'application de la Bible, le verset, c'était Ésaïe 43, verset 10, je crois, « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, ne crains pas, je sais plus, ne sois pas effrayé, ne sois pas effrayé, ne... ouais, je sais plus, bon, et... C'était ça, ne promets pas des regards inquiets, je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Et donc je sens que le Seigneur me dit, il faut que tu ailles dire ce verset à ce petit garçon. Et après le temps de culte, on a eu un temps de témoignage, et puis à la fin on avait eu à cœur de prier pour la jeune génération, donc on a fait, puis j'ai été le voir. Et je lui ai expliqué, et je lui ai déclaré ce verset sur lui. Et c'était un petit garçon qui était en famille d'accueil, voilà, ses parents avaient perdu la garde, et puis il était donc en famille d'accueil avec sa sœur. Et... après le culte, on mange ensemble et il était là et je me dis, ben, faut que je lui écrive parce que certainement, je ne sais pas s'il a une Bible, ça fait quelques mois, peut-être 1 an qu'il est dans cette famille et tout, je vais lui écrire pour qu'il puisse garder une trace. Donc je lui fais un petit papier, puis je lui écris ce verset et je vais lui donner. Et puis pendant le repas, il y a le papa de la famille d'accueil qui vient me voir, qui était en larmes, il me dit, mais tu ne te rends pas compte en fait, ce qui vient de se passer, c'est que vendredi, on a eu l'information que ses parents biologique avait entamé un processus d'abandon officiel. Donc ce petit garçon, il va être orphelin, il va devenir pupille d'État, il va être proposé à l'adoption. Et le fait que tu lui dises, bah, ne sois pas effrayé, que tu aies reçu ce verset, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, bah, ça prend tout son sens parce que vendredi, il était vraiment perturbé, il était vraiment... en même temps, il était là, je veux changer de vie, je veux changer de nom, je veux tout recommencer. Et en même temps, c'était une blessure énorme. Et waouh, j'étais juste émerveillée de comment le Seigneur m'avait utilisée à ce moment-là. Et puis, ce n'est pas fini. Plus tard, pendant le repas, il y a sa petite sœur qui vient me voir, sa sœur biologique qui était aussi dans la famille d'accueil et qui me dit, et moi, ça veut dire quoi mon nom ? Elle s'appelait Roxane. Et je lui dis, bah, je ne sais pas, on va regarder. Puis je regarde sur mon téléphone et puis je vois que ça veut dire brillante comme l'aurore. Alors j'ai dit, waouh, c'est super beau, tu sais ce que c'est l'aurore? C'est le lever du jour, c'est la nuit, les ténèbres, c'est terminé. Maintenant, il y a la lumière qui vient, il y a l'espérance qui revient. C'est trop beau ton prénom. Et elle était tellement contente. Et puis je dis, bah attends, on va regarder, parce que souvent, il y a une histoire avec les prénoms. Et puis là, il y avait écrit, ben, Roxane, il n'y a pas d'histoire, mais elle est rattachée au prénom Reine. Alors je regarde, ben, Reine. Et puis l'histoire de Reine, c'était que c'était une jeune orpheline qui avait été recueillie par une nourrice chrétienne. Et elle me dit, mais c'est moi ça? Je dis, bah oui, c'est toi. Et elle était juste bouleversée. J'étais là, waouh, mais Seigneur, c'est tellement beau ce que tu fais. Et voilà, j'étais tellement émerveillée. Et puis voilà, le Seigneur me rappelait, bah voilà, tu vois, tu t'es positionnée, tu as obéi pour toi d'abord, mais aussi ça te donne l'autorité pour d'autres personnes pour amener ça, la restauration de l'identité. Donc ça, c'est un exemple, porter du fruit qui demeure. Ça va ? Je continue. Alors, comment on est purifié et taillé ? Verset 3, grâce à l'enseignement que Jésus nous a donné, grâce à la parole qu'il nous a enseignée. Hein, et au verset 7, que ces paroles demeurent en nous. Alors, demeurer, c'est habiter, prendre possession des lieux et en faire sa maison. Et c'est pas juste dans une pièce de la maison, c'est partout. Quand quelqu'un, vous invitez quelqu'un chez vous, peut-être à dormir, ben voilà, vous allez lui préparer une chambre, mais cette personne, elle ne va pas rester enfermée dans la chambre pendant tout le séjour, elle va utiliser la salle de bain, les toilettes, elle va manger avec vous. Donc elle va comme ça visiter peut-être plusieurs pièces de la maison. Et c'est un petit peu pareil avec le Saint-Esprit, il veut venir vraiment demeurer, prendre possession de toutes les pièces. Et puis, venir dans tous les recoins de notre vie. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ben, on peut faire des parallèles, j'aime bien faire des parallèles entre le naturel et le spirituel dans notre maison. Là où on habite, il y a plusieurs pièces, et ces pièces ont des fonctions différentes. D'accord ? Il y a la chambre, ben, c'est pour se reposer. Et là, le Saint-Esprit veut venir nous donner du repos. Et puis la salle de bain, ben, c'est pour se purifier. Et là, le Saint-Esprit veut faire aussi ce travail de purification dans nos vies. La cuisine, c'est pour se restaurer, pour reprendre des forces. Là aussi, le Saint-Esprit, il veut nous restaurer. Il veut nous redonner des forces. Il y a peut-être un bureau ou un garage pour travailler. Là aussi, le Saint-Esprit veut venir travailler dans nos vies. Il veut venir faire des choses dans nos vies. Il y a le salon pour profiter, pour passer du bon temps. Là aussi, le Saint-Esprit, il veut venir demeurer et prendre ses temps de qualité avec nous. Et voilà, c'était juste un parallèle. J'ai dit, mais c'est vrai, en fait, comme dans nos maisons, on a plein de pièces avec plein d'utilisations différentes. De la même façon, dans notre vie, dans nos cœurs, le Saint-Esprit, il veut venir mettre sa parole partout, dans tous les domaines de nos vies. Et il veut faire des choses différentes, c'est pas juste une chose. Verset 4, « Demeurez en moi ». On a cette invitation à demeurer en Jésus. Et j'ai passé pas mal de temps sur ce verset en me disant, ah, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire, demeurer en moi? Alors là, on a, en face de moi, j'ai une maman où il y a un bébé qui demeure en elle, qu'on ne voit pas encore. Mais je trouvais que c'était une belle image de la grossesse, où le bébé, il élit domicile, il demeure dans le corps de la mère, il y est nourri, il est protégé et il se développe. Et ça me faisait penser à ce verset dans Colossiens 3:3, que notre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Et en fait, dans le sein maternel, eh ben, on est dans cette protection, on est dans cette assurance, et on est vraiment, voilà, quand on demeure en Jésus de la même façon, eh ben, en fait, ça nous donne cette protection, cette assurance, on est nourri, on est protégé. Et le Seigneur nous invite vraiment à demeurer en lui. Mais il dit après, et moi, je demeurerai en vous. Alors, je me dis, bah, c'est fou, comment c'est possible que nous, on demeure en lui, lui demeure en nous? Il y a cette espèce de mouvement, et par son esprit, Jésus fait sa demeure en nous. Éphésiens 2, verset 22, en lui, nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et vous savez, la signification du mot chrétien, ça veut dire petit Christ, parce qu'on le représente. Et en fait, Jésus, il vient faire sa demeure en nous. Alors que nous, on demeure en lui, lui vient faire sa demeure en nous et il veut demeurer en nous. Et en fait, Je me suis dit, mais pourquoi il y a les deux? Pourquoi il ne s'est pas arrêté à juste demeurer en moi et puis rester caché en moi, comme ça? Mais il nous dit aussi, je veux que vous soyez une habitation, je veux demeurer en vous. Et en fait, c'est un processus qui va de l'intérieur vers l'extérieur. On n'est pas censé juste être replié sur nous-mêmes, être recroquevillé, on est censé après aller à l'extérieur. Hein? Mais du coup, ce n'est pas quelque chose qui est basé sur ce qu'on voit. C'est pour ça que les deux sont nécessaires, à la fois demeurer en Jésus pour, et que lui demeure en nous. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont connu cette... c'est pas une référence magnifique, mais il y avait une pub pour un yaourt il y a plusieurs années qui disait « actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur », quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un petit peu ça, ce que le Saint-Esprit fait en nous. Désolée, c'est la référence qui m'est venue. Mais en fait, c'est ce travail de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas d'abord à l'extérieur. Je vais changer mes œuvres, je vais faire des efforts, je vais essayer de me sanctifier en faisant des bonnes œuvres. Non, c'est d'abord le Saint-Esprit, en fait, qui vient à l'intérieur de nous. Et ce qu'il fait à l'intérieur de nous, ça déborde vers l'extérieur. Et c'est important de ne pas faire le contraire. Et en fait, dans ce verset où il y a « demeurer en moi », et je demeurerai en vous, en fait, il y a un mouvement de vie. Vous savez, ça ne stagne pas. Ce n'est pas quelque chose qui... Vous savez, on parle souvent du Jourdain, du fleuve du Jourdain qui va dans la mer morte, et puis ça s'arrête là. Et puis, en fait, les eaux de la mer morte sont mortes. Enfin, il y a quand même une forme de vie, mais très, très limitée à cause de la saturation en sel. Mais en fait, quand on a ce mouvement intérieur vers l'extérieur, c'est un mouvement de vie. Pourquoi ? En fait, tout simplement parce que Dieu veut être en relation avec nous. Il veut être en relation pour qu'il y ait cet échange perpétuel, en fait. Et pourquoi il veut être en relation avec nous ? Parce qu'il nous aime. Il n'avait pas besoin, mais il nous a créés juste par amour, parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Et on a chanté tout à l'heure, si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Et par Jésus et son esprit, Dieu se rend accessible. Dieu se rend accessible et se laisse trouver. C'est incroyable ça. Alors au verset 5, on continue. Porter du fruit en abondance. Là aussi, je me suis arrêtée et puis j'ai cherché un petit peu. Porter du fruit, porter du fruit. Pas porter des fruits, porter du fruit. Et alors j'ai cherché d'où vient l'expression porter du fruit. Eh bien, ça vient de la Bible, parce que c'est utilisé nulle part ailleurs. J'ai trouvé l'étymologie de porter des fruits. Au Québec, ils disent porter fruits, ou on peut dire porter ses fruits, mais porter du fruit, c'est Jésus qui l'a dit. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Galates 5, où il est question du fruit de l'esprit, qui se traduit en 9 éléments. Donc là, on se dit, mais Seigneur, attends, mon cerveau, il ne comprend pas. Tu parles du fruit, mais il y en a 9. Donc c'est quoi ? C'est les fruits ? Non, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit qui se manifeste de façon différente. Et porter du fruit, c'est quelque chose auquel Jésus nous appelle. Et puis, il y a un exemple dans la Bible. Vous savez, Dieu, il parle à travers les choses du naturel, il y a toujours des implications dans le spirituel. Et souvent, on peut, voilà, comme l'exemple de la maison, on peut le transposer dans le côté spirituel. Mais il y a une personne dans la Bible qui a vécu en même temps le fait de porter du fruit dans le naturel et dans le spirituel. Alors, est-ce que vous savez qui c'est ? Une personne humaine, c'est pas Jésus. Alors, je vous donne un indice, on est la fête des mères aujourd'hui. Laurent ? Ah, qui c'est qui a dit ? Oui, Marie, exactement. Marie, elle a vécu l'incarnation, elle a vécu la communion avec l'Esprit Saint dans le naturel et le spirituel en même temps. Et qu'est-ce qui est né de ça ? Jésus. Le fruit de ça, c'est Jésus. On dit la puissance du Très-Haut, la couverte de son ombre, et le fruit qu'elle a porté est Jésus. Donc ça veut dire que tous ceux qui acceptent Jésus reçoivent l'Esprit de Dieu qui chaque jour va produire Jésus. Donc Marie, elle a reçu le Saint-Esprit, ça a produit Jésus en elle, dans le naturel et dans le spirituel. Et c'est ce qu'on est appelé à vivre dans le spirituel. Donc le fruit de l'Esprit, c'est Jésus. Donc Galates 5, 22, c'est la manifestation intérieure de Jésus en nous, en chacun de nous. Ça va ? Je vous fais... j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, à prier. Versets 9 et 10. Demeurer dans son amour, c'est obéir à ses commandements. Sa parole, ses commandements, c'est quoi ? Versets 12 et 13, c'est l'amour sacrificiel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est donner sa vie, au verset 13. Et ça aussi, Jésus, tout ce qu'il a fait dans le naturel quand il était sur terre, c'était une manifestation concrète, spirituelle aussi. Et donc le fait que lui, Jésus, il a modelé cet amour sacrificiel en donnant sa vie pour chacun de nous, en acceptant de mourir à notre place, et ben en fait, c'est ce qui nous invite à faire, à être ses imitateurs, hein, dans Éphésiens 5, 1, et concrètement, à donner notre vie pour les autres. Alors, il y en a qui vont jusqu'à la mort, mais même leur mort ne peut pas racheter, ne peut pas, voilà, le sacrifice de Jésus est unique. Mais en fait, dans nos choix de tous les jours, on est appelé à faire ça, à faire passer l'intérêt de l'autre avant le nôtre, à considérer l'intérêt de l'autre au-dessus des nôtres. Et qu'est-ce que c'est dur ? Et je vais vous donner un petit exemple. Au début de notre relation avec Matt, on avait vraiment, après avoir fait des erreurs dans le passé, on avait vraiment décidé de marcher selon la volonté de Dieu et de nous garder pour notre mariage. Et puis, un soir, il me raccompagnait chez mes parents et puis on se disait au revoir devant chez mes parents, et puis on commence à se faire un bisou, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et là, il me dit stop, on arrête. Et il m'a dit, parce que si on continue, je ne vais pas te respecter, et je ne vais pas respecter ce qu'on a décidé ensemble. Et là, je vous avoue que je me suis mis à pleurer, et je me suis dit, waouh, ce gars-là, je veux l'épouser, parce qu'il est capable, la force qu'il a de tellement m'aimer, de considérer mon intérêt avant le sien, de ne pas profiter de la situation, de se montrer fort dans une situation où il était tenté. Il m'a dit non, on arrête, stop. Et ça, c'est un exemple concret de comment on peut chercher l'intérêt de l'autre avant le nôtre. La vie de maman, c'est aussi une bonne école pour expérimenter l'amour sacrificiel, n'est-ce pas, chère maman, hein? Parfois, on a faim, on est fatigué, mais non, on se lève la nuit et puis on fait à manger à nos enfants, puis on est prêt à leur laisser, puis nous, tant pis, on mange les restes, on finit les assiettes. Hein. Combien de fois on finit les assiettes, hein ? Voilà, et Jésus, au fur et à mesure qu'on avance dans le chapitre, en fait, il va de plus en plus loin. Et le standard est de plus en plus élevé. Le standard de son amour, il est tellement élevé, mais on ne peut pas sans son esprit. C'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Sans la communion avec l'esprit de Dieu, on ne peut pas. Mais on doit tendre vers ça, quand même. Et aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et en tant que mère, j'avais envie juste de parler pour terminer. Et ben sur les attributs un petit peu du fait d'être mère. Et puis, je veux aussi qu'on puisse célébrer, on prendra un temps à la fin pour célébrer les mamans naturelles et spirituelles au milieu de nous. Et si vous avez rencontré Jésus et que vous êtes son disciple, et ben vous savez qu'on est tous appelés à donner. Hein, c'est pas, encore une fois, un amour qui juste garde tout pour moi, mais c'est un amour qui est appelé à déborder et puis à donner. Et vous savez, dans notre vision, le deuxième A, c'est apprendre à vivre comme Jésus. Et on insiste beaucoup sur le fait d'être restauré dans notre identité de fils et de fille de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne pourra pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est un petit peu comme tout à l'heure quand je vous parlais des victoires. On ne peut pas donner si on n'a pas reçu. Et on a besoin d'être continuellement renouvelé, continuellement rassasié. On ne sera jamais rassasié, mais continuellement d'aller à la source, chercher à être rempli de l'Esprit de Dieu. Jean 15, verset 8, ça dit « Ceux qui manifestent la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Et donc, on a besoin d'être restaurés dans notre identité de fils et de fille, mais pas seulement pour nous, parce qu'on est appelés à devenir des pères et des mères, les uns pour les autres, des pères et des mères spirituels. Et la volonté de Jésus, au verset 16, c'est qu'on porte du fruit et que le fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alors, ce qui caractérise peut-être une femme, les attributs maternels que Dieu a mis en chaque femme, c'est de porter la vie et c'est de donner la vie. Mais pour porter la vie, on ne peut pas le faire toute seule, mesdames, vous êtes d'accord ? C'est le fruit de la communion. Hein ? Alors, on est appelé à porter la vie, à amener la vie, mais messieurs, vous avez aussi ce mandat d'être fécond. Hein, dans Genèse 1, 27, Dieu, il a parlé à Adam et Ève, il leur a dit « Soyez féconds à tous les deux ». Mais c'est nous qui avons le privilège de porter la vie. Et puis, c'est important, voilà, à l'heure un petit peu où on est dans la confusion dans notre société, de l'identité homme-femme, où on nous fait croire que mais non, c'est pareil, au nom de l'égalité, les hommes et les femmes sont interchangeables, au nom de l'égalité, voilà, on va chercher à gommer, à nier toutes les différences. Non, c'est pas ça le cœur de Dieu. En créant la femme, Dieu, il a déposé des choses uniques. De la même façon qu'en créant l'homme, il a aussi déposé des choses uniques dans son ADN et dans son identité. Mais ce matin, voilà, comme c'est la fête des mères, je voulais un petit peu m'attarder sur les attributs maternels. Et puis, de toute façon, on a tous eu une maman ici. Donc, même si vous êtes un homme, eh ben, vous pouvez aussi penser à votre maman. Je reprends Jean 15, versets 4 et 5. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est pareil, hein, on a besoin d'être dans cette communion, parce que sinon, on ne peut rien faire. C'est Jésus qui nous le dit. Et dans le naturel, en tant que femme, on a la capacité de porter la vie, d'être féconde. On est créé pour ça, notre corps est fait pour ça. Et sans la communion, dans le naturel, sans la communion avec l'homme, c'est impossible. Et la communion entre l'homme et la femme, ça donne la vie, parce qu'ils sont tous les deux porteurs de semences de vie. Mais sans la communion, cette semence, elle reste juste un potentiel. Et ça ne porte pas la vie toute seule. Il y a besoin de cette communion. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Sans la communion avec l'Esprit de Dieu, on ne peut pas porter de fruits. Et notre corps, en tant que femme, il est programmé, dès la conception, à porter et à donner la vie. Alors, on a fait un atelier, une soirée avec les femmes il n'y a pas longtemps, puis j'avais invité une amie qui est un petit peu experte là-dedans. Est-ce que vous savez quand est-ce que dans le corps de la femme, quand est-ce que le stock d'ovaires, donc les ovaires, c'est les... je ne vais pas dire de bêtises. Vous savez ce que c'est, les ovaires ? Oui. Commence le processus de maturation. À quel moment de la vie de la femme ? Il y en a qui le savent. Hein. À peu près. Alors, on va lever la main. Est-ce que ça commence dans l'enfance ? Vous pouvez lever la main. Est-ce que ça commence à la puberté ? Est-ce que ça commence à l'âge adulte ? Est-ce que ça commence à la ménopause ? Alors, il y en a qui disent la puberté, 12 ou 13 ans, là-bas j'entends d'autres réponses, Lucie, dans le ventre, ça commence à la 6e semaine de grossesse. Voilà. Donc dès la 6e semaine de grossesse, il y a déjà le stock d'ovaires, et c'est un stock d'ovaires, je crois, de 12 millions, et puis ça va diminuer. Oui, il y a 12 millions de stock d'ovaires. Ça va diminuer à la naissance, c'est 1 à 2 millions, et à la puberté, c'est 400 000. Oui, Véronique. Ah. On parle du stock d'ovaires. Ovocyte. Donc vous voyez, on est vraiment créé pour porter la vie, pour donner la vie. Et ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Et de la même façon, quand il y a eu la communion, quand il y a un bébé, notre corps, il va se transformer pour accueillir la vie, pour la protéger, pour qu'elle se développe. Et dans le spirituel en tant que femme et dans les différents domaines de notre vie, on est créé pour reproduire ce principe, pour libérer la vie par nos paroles, par l'atmosphère qu'on crée, par nos actions, par nos choix. En fait, ça fait partie de notre ADN et de notre identité en tant que femme de libérer la vie, d'amener la vie partout où on est. Mais bien sûr, ça se fait en partenariat avec l'homme en ce qui concerne la conception d'un bébé et dans le spirituel, en communion avec l'Esprit de Dieu. Mais aussi en communion les uns avec les autres. Hein. Le Seigneur, il nous a pas créés tout seuls dans notre coin. On est appelés à être en communion les uns avec les autres, comme on l'a lu, à nous aimer les uns les autres. Parce que c'est qu'ensemble qu'on peut représenter la vraie nature de Dieu. Hein, hommes et femmes ensemble. Dans Genèse 1, 27, c'est comme ça qu'on est créé à l'image de Dieu. Hommes et femmes ensemble. Et vous savez, il y a ce verset dans Jean 10, 10 qui dit que l'ennemi, il est venu pour voler, tuer, détruire, mais Jésus est venu donner la vie en abondance. Et dès notre conception, l'ennemi va chercher à attaquer cet attribut maternel de donner la vie, de porter la vie. Et vous savez, au début du mois, on a fait une soirée avec les femmes et donc j'avais invité une amie. Et elle avait été vraiment... l'ennemi, voilà, il a essayé vraiment de voler comme ça son appel, de voler son identité dans ce domaine-là. Et elle est passée par beaucoup de souffrances, mais le Seigneur l'a restaurée. Médicalement, elle avait été déclarée stérile et le Seigneur lui a donné 3 enfants naturels et puis ils ont pu adopter un petit enfant aussi. Et aujourd'hui, elle va parler de ces sujets-là auprès des femmes, de tous les âges, des jeunes filles, des mères. Et en fait, précisément là où l'ennemi l'a attaqué dans son corps, dans son histoire, le Seigneur a permis cette restauration pour qu'aujourd'hui, elle soit une voix, elle puisse aller parler de ça, aller amener la guérison, la restauration dans ce domaine-là. Et très souvent, les domaines de nos vies dans lesquels on est attaqué, c'est précisément l'appel de Dieu sur notre vie. C'est précisément là où il nous appelle, là où il nous donne une voix, là où il nous donne une influence et là où il nous appelle à porter la vie. Et c'est important d'en être conscient pour ne pas rester au stade de victime et de « j'ai tout perdu », mais pour se battre et puis pour savoir que le Seigneur, il veut aussi nous restaurer parce qu'il veut nous donner une voie, une victoire pour qu'on puisse amener cette percée autour de nous. Et pour finir, voilà, c'est la grossesse encore une fois. Je parle de grossesse parce qu'on est dans la maternité aujourd'hui. Dans quelle partie du corps elle est vécue ? Eh ben, c'est dans nos entrailles. Et nos entrailles, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot utilisé. C'est pas un organe, c'est un lieu de plusieurs organes. Et puis c'est un mot qui est utilisé pour nommer ce qui est profond et presque inaccessible, ce qui est le centre caché et vital. On parle des entrailles de la terre, par exemple. Mais on parle aussi des entrailles de mère et des entrailles de père, parce que c'est pas juste réservé à la mère. Et souvent, les blessures d'enfance, les abus qu'on a pu subir, ils vont très souvent se situer dans les profondeurs de notre être. C'est pour ça qu'on parle des entrailles. Ça vient à la racine, en fait. Parce que le diable, il sait très bien que s'il va attaquer à la racine, ça va infecter toute la plante, en fait. C'est pour ça qu'il essaie, c'est pour ça que nos enfants, ils sont hyper exposés, parce qu'il sait que c'est là, en fait, qu'il va avoir le plus d'influence. Et en fait, lors de la chute, en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève, elle a ingurgité la mort. Et la nourriture, quand on l'ingurgite, ça descend où ? Dans nos entrailles. La mort est descendue dans ses entrailles. Mais par Jésus, il y a la rédemption. Et il y a un verset dans 1 Timothée 2 qui est souvent difficile à interpréter. Où Timothée il dit que la femme sera sauvée en devenant mère. Alors, il y a plusieurs théologiens qui se sont penchés sur ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est un prérequis au salut pour les femmes, d'être maman? Ben non, on sait que c'est pas ça. Le salut, ça dépend pas de si tu deviens mère ou pas. Et puis une interprétation qui est très plausible, c'est que ce verset, il parle de Ève. Ève qui, parce que sa descendance écrasera la tête du serpent avec le talon, donc il est question d'Ève. Et c'est très probablement ça. Mais en fait, spirituellement, c'est aussi la rédemption de notre identité de femme, de porter la vie, la restauration et la guérison de nos entrailles grâce au sacrifice de Jésus. Et en fait, de devenir mère, de devenir une mère spirituelle, de porter la vie, ça c'est la rédemption que Jésus fait dans nos vies. Et c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, donc c'est juste ce verset m'a interpellée. Et puis la suite du verset, c'est qu'elle elle persévère dans l'humilité, la bonté, enfin ça reprend des fruits de l'esprit. Mais quand le « elle persévère », j'ai vu qu'en fait, dans le texte originel, il était au pluriel, alors que dans nos traductions, il est au singulier. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà, il écrit « elle est sauvée en devenant mère », au singulier. Et puis après, dans le texte grec, la suite de la phrase, c'est « si elle persévère dans l'humilité, la bonté », et ça, c'est au pluriel. Voilà, donc c'est pour ça que... L'interprétation, c'est que la première partie du verset s'applique à Ève, et puis la deuxième partie s'applique à toutes les femmes, ou peut-être les femmes, enfin, et entre autres les femmes de la communauté que Timothée évoque. Mais j'ai dit, ben, je trouve ça beau quand même de pouvoir s'approprier même cette première partie de verset sur le fait de vivre cette rédemption, de pouvoir donner la vie en tant que femme, de pouvoir porter de la vie dans le spirituel et de devenir des mères spirituelles. Suite à tout ce que j'ai pu partager, ben on a vraiment envie d'honorer, d'activer, de libérer ce potentiel de vie que chacune de nous, femmes, portons, quelle que soit la saison de vie dans laquelle on est, que peut-être la maternité, c'est loin derrière vous, peut-être que ce n'est pas encore et que vous aimeriez que ce soit là, peut-être que ce n'est pas encore le temps, ben quel que soit votre âge, votre statut social, de vraiment honorer et activer ce potentiel de vie par l'esprit, par la communion avec l'esprit. Et je vais inviter toutes les femmes de la salle à vous lever. Toutes les femmes, même les jeunes filles, quel que soit votre âge, à vous lever. Et puis, messieurs, vous pouvez déjà regarder autour de vous toutes ces mamans spirituelles, comme elles sont belles. Ouais, on peut vous applaudir.